Bien, pour deux raisons. La première, il voulait choisir des personnalités compétentes, bien sûr, mais qui puissent être confirmées par le Sénat assez rapidement. Or, on ne sait pas encore exactement si le Sénat sera entre les mains des démocrates ou entre les mains des républicains. On ne le saura que lors de cette double élection en Géorgie, le 5 janvier. Il a préféré prendre des personnalités qui ne soient pas trop contestées. Avec Blinken, il pourrait y avoir des problèmes en raison de sa compagnie qu'il a formée après avoir quitté l'administration Obama. C'est une société, un cabinet de conseil qui a travaillé avec des pays étrangers. Les républicains sont un peu soupçonneux, veulent savoir exactement avec quels sont ces pays. Avec Janet Yellen, bien sûr, il a choisi l'ancienne patronne de la Réserve fédérale, donc une personne très compétente et qui ne devrait pas avoir trop de mal à être confirmée.
René, quand on voit aussi des gens comme l'avocat d'origine nigériane Wali Adeyemo ou les minorités, beaucoup de femmes, pensez-vous que c'est une équipe qui est bien équilibrée avec des gens expérimentés comme Janet Yellen aussi?
Oui, il semblerait que ce soit tout à fait le cas. En tout cas, c'est la perception de la plupart des principaux acteurs du champ politique, du champ économique, et également du champ de la communication. Quand on pense à son équipe de communication, qui est une équipe entièrement composée de femmes. Donc, c'est vrai qu'il y a un équilibre également qu'il a cherché à faire. Prenez le cas, par exemple, de Janet Yellen. Elle a été, sa nomination a été appréciée très positivement à la fois par le Wall Street Journal, donc la droite conservatrice, et également Elizabeth Warren, qui est l'aile très libérale, très progressiste du parti. Donc je crois qu'il y a un équilibre qu'il a cherché à faire, et cela semble avoir bien marché. Tant de points.
Vous auriez aimé voir plus de nouveaux visages? C'est vrai que l'équipe n'est pas encore complète, mais...
Oui, l'équipe n'est pas encore complète pour l'instant, mais moi déjà, pour ce que j'ai vu, que ce soit au niveau économique, au niveau de la communication et au niveau de la défense, donc ce sont les trois grands secteurs qui ont été déjà, où il y a déjà eu des nominations, j'avoue que c'est impressionnant. Ce sont tous de gros calibres, comme on dit familièrement. Ce sont tous des gens très expérimentés, des gens qui ne sont pas très controversés et des gens qui ont eu une pratique de la gestion de grands portefeuilles d'administration pendant plusieurs années.
Et vous, Denis Beaver, comment jugez-vous ces nominations qui sont jusque-là annoncées? Avez-vous peur que Joe Biden ne soit beaucoup plus à gauche? C'est aussi une préoccupation pour vous?
Oui, ça fait vraiment peur. Hein. Voilà pourquoi 70 millions en voté pour tout, puisqu'on a peur des gauchistes. Et surtout, à mon avis, les gauchistes qui sont complètement dingues. Il ne faut plus vendre de l'automobile qui transforme benzine, tout ça. Oui, il a choisi des gens de l'équipe, ancienne équipe Obama. Et ça, c'est vraiment, si tu veux, Obama va devenir président une troisième fois.
Ah bon, Claude, c'est votre avis, troisième mandat d'Obama?
Troisième présidence Obama. On a posé la question à Joe Biden, il a dit non, pas du tout. Mais c'est vrai que toute l'équipe qu'il a annoncée, pour le moment qu'il a présentée, sont tous en grande majorité des anciens de l'équipe d'Obama. Mais cela a tout de même de gros avantages, et ça va faciliter la tâche de Joe Biden quand il sera à la Maison-Blanche, c'est que tous ces gens, notamment dans l'équipe de politique étrangère et de sécurité nationale, sont tous des gens qui se connaissent bien et qui s'entendent relativement bien. Or, ça fait une grande différence avec l'administration Trump, où c'était les coups de poignard dans le dos constamment, des leaks à presse et toutes ces choses-là. Donc, il y a une équipe très, très cohérente de politique étrangère. En ce qui concerne la politique économique, il y a un gros problème avec la personnalité que Biden a choisie pour l'OMB, l'Office de l'administration et du budget, c'est Nara Tandem. Et là, elle est critiquée et par la droite et par la gauche. Par la droite parce qu'elle a été très proche d'Hillary Clinton. Par la gauche parce qu'à un moment, bien qu'elle était présidente pendant 10 ans d'un think tank très progressiste, elle avait à un moment suggéré qu'il faudrait peut-être, pour des raisons budgétaires, réduire la sécurité sociale. Alors, ça, c'est une vache sacrée. Et certains disent que Trump l'a peut-être choisi comme la brebis propitiatoire. Vous savez, on offre une brebis aux dieux pour qu'ils soient de bonne humeur et qu'ils acceptent la confirmation générale des autres. Donc, on voit un petit problème avec la responsable du budget.
Et vous, René, c'est un peu votre impression. C'est vrai que j'ai vu beaucoup de réactions sur Twitter concernant cette femme. La droite, en tout cas, semble vent debout contre elle.
Oui, bon, écoutez, Nara Tandem est quelqu'un de très impressionnant, déjà d'un point de vue de son background. Ses deux parents sont des immigrés indiens. Donc c'est quelqu'un qui est, même si elle est née aux États-Unis, me semble-t-il, c'est vraiment la première génération, donc elle est issue d'une famille de migration, comme c'est le cas également de Adewale Wali Adeyemo, dont vous parliez tout à l'heure, qui est un Nigérian lui-même. Je crois même qu'il est né au Nigeria, c'est encore plus extraordinaire, et il est le secrétaire au Trésor, donc vice-ministre des Finances, en quelque sorte, pour ramener ça au système francophone que nos téléspectateurs connaissent un peu mieux. Mais écoutez, c'est vrai que, bon, elle a dirigé le Center for American Progress, qui est un think tank créé par John Podesta, qui était le staff de Bill Clinton, et qui est pourtant assez progressiste, mais c'est aussi c'est la gauche, centre-gauche, mais ça satisfait pas mal de libéraux et de progressistes. Mais c'est vrai que bon, il y a certains points qui sont des points de désaccord et qui sont des points de désaccord avec les Clinton.
Sur la base de tout cela, est-ce qu'on peut dire que les deux courses sénatoriales en Géorgie pourraient un peu déterminer la manière dont Joe Biden va gouverner, ou bien c'est un peu exagéré?
Ah, mais écoutez, ça va être déterminant parce que, bon, moi, à mon avis, ça va être un ticket. Hein. Ça sera soit les deux sénateurs, les deux candidats républicains qui vont gagner, soit ça sera les deux démocrates qui vont gagner. Il me semble que leurs sorts sont liés. Et selon la situation, le Sénat, le contrôle du Sénat sera soit démocrate, soit républicain.
Et Denis Beaver, est-ce que vous pensez justement que ces courses sénatoriales en Géorgie sont un peu l'une des raisons, ou plutôt les raisons pour lesquelles Donald Trump n'a pas...
Oui, je pense. Mais Trump...
C'est une bonne stratégie, vous pensez?
Tu sais, maintenant, on a ras-le-bol avec Trump. On est persuadé qu'on a un fait dans la Maison-Blanche. Et peut-être, d'être un bon hein, pour les éventuels les sénateurs, c'est un danger. Et à mon avis, il a bien raison de rester hors de Géorgie.
Il a prévu d'y aller pour faire campagne.
Oui, c'est ce qu'il a dit. Mais ça m'étonne s'il est vraiment quelqu'un qu'on veut voir dans cet état. Puisque... On a vraiment peur maintenant de cet homme qui il dit n'importe quoi, des conspirations, tout ça. On ne le croit
pas. Pour le Parti républicain, je sais que vous avez voté pour lui, n'est-ce pas?
Oui.
Et je vois aussi Claude qui veut réagir par rapport à cela. Est-ce une bonne stratégie pour les républicains d'entretenir un peu le doute sur cette question des fraudes?
Non, je voudrais simplement revenir un instant sur, sur les sénatoriales là, de Géorgie. Effectivement, Trump envisage de se rendre en, en Géorgie samedi pour un nouveau grand meeting, comme il les aime. Mais il est un peu en contradiction avec lui-même parce que, d'une part, il dit aux républicains cette élection a été une fraude, n'est-ce pas ? Et de l'autre, il dit mais il faut absolument voter massivement pour les deux sénateurs républicains. Alors, ce qui peut se passer, c'est que les républicains vont dire « Ah ben, si de toute façon on peut voter, mais ça n'a aucune signification puisque notre vote ne sera pas pris en considération. » Et de l'autre, s'il boude cette élection, évidemment, ça pourrait favoriser les démocrates. René dit qu'il pense que les deux vont de pair. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Il pourrait très bien y avoir la sénatrice pourrait être battue, mais Perdue qui est déjà en place depuis pas mal de temps, depuis au moins un mandat, pourrait être élue, par exemple. Ce qui rend la position des démocrates peut-être un peu plus difficile, c'est les candidats qu'ils ont choisis pour s'opposer aux républicains. Vous avez d'une part un afro-américain, un révérend, qui a eu dans les années 60, qui avait accueilli Fidel Castro, et de l'autre vous avez un juif, un noir et un juif dans un état comme la Géorgie. Ça tendrait plutôt, à mon humble avis, à favoriser la victoire des républicains.
Tout dépendra de la mobilisation des
uns et des autres, c'est vrai. Des millions de dollars sont investis dans cette élection.
Un commentaire par rapport à tout cela. On a vu William Barr, le ministre de la Justice, qui a fait une sortie pour dire qu'il n'avait pas vu de fraude massive qui pouvait influer sur le résultat final. Finalement, tout cela dans le contexte sénatorial en Géorgie, quel est-ce qu'on va voir?
Oui, écoutez, bon, il semble simplement valider un peu quelque part, donner une sorte de feu vert à d'autres républicains pour leur dire, écoutez, it's ok, il est temps peut-être d'accepter la victoire de Joe Biden. Et c'est vrai que sa déclaration hier à l'Associated Press, à l'agence Associated Press, était assez remarquable de ce point de vue. Il semblerait qu'elle a été suivie d'une rencontre de plus de 2h30 à la Maison-Blanche, et je ne crois pas que les choses se soient bien passées. Donc, il est sûr que, bon, quelque part, Barr, qui est pourtant un des grands supporters de Donald Trump, semble un peu le lâcher.
En tout cas, nous avons quand même quelques réactions de téléspectateurs sur la page Facebook de VOA Afrique. On a Oscar Lobela en RDC qui dit « Joe Biden doit éviter de gérer les accords internationaux comme son affaire personnelle. Il doit respecter les autres nations et ne pas les dénigrer. » Et puis Juma Bin Moulagé à Lubumbashi, toujours en RDC, écrit « La prochaine administration Biden n'aura pas beaucoup de choses à changer parce que la politique américaine reste d'abord pour les intérêts américains. Pour le retour sur la scène internationale, il faudra juste respecter les conventions diplomatiques et faire revenir les États-Unis dans son rôle de leader mondial. » Voilà. Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. Heureux de vous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. Je rappelle nos invités. Ici à Washington, René Lecq, analyste politique, toujours dans la capitale américaine. Claude Porcella, journaliste et ancien chef du service francophone de la Voix de l'Amérique. Et à Bakersfield, en Californie, l'avocat Denis Beaver. Alors René, les relations entre l'Amérique et le reste du monde, vont-elles changer? L'OTAN a déjà invité Joe Biden à son prochain sommet prévu à Bruxelles juste après l'investiture de Joe Biden.
Oui, bien sûr, Abdourahmane. C'est la fin de America First, de la politique nationaliste de Donald Trump. Et on retrouve une situation, j'allais dire, un peu de normalité avec le reste du monde, notamment avec les alliés européens, que ce soit au niveau de l'OTAN, que ce soit dans les discussions avec l'Union européenne, que ce soit, bien entendu, le retour aux accords de Paris avec John Kerry, qui justement est l'envoyé spécial du président, sera l'envoyé spécial du président Biden. C'est un poids lourd, bien entendu, de la politique américaine, puisque lui-même est un ancien candidat à l'élection présidentielle. Je crois que la situation va changer complètement. Ça va être un retour de négociations avec l'Iran, pour voir comment relancer, revenir, peut-être pas sous les mêmes formes, mais revenir à l'accord nucléaire avec l'Iran. Bref, quoi, l'Amérique revient sur la scène internationale. Donald Trump lui-même, Joe Biden lui-même lui dit « America is back
». Claude, justement, ses alliés européens, l'OTAN, mais aussi le nucléaire iranien dont faisait allusion René, surtout après l'assassinat du principal scientifique iranien qui travaillait sur le programme nucléaire de l'Iran. Comment Joe Biden va naviguer tout cela?
Ça ne va pas être facile. Hein. Ça va pas être facile. Au cours des derniers mois qui restent à Donald Trump, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, il plante des mines pour son successeur. Et vous savez, il avait dit à un moment, il avait envisagé même de bombarder l'Iran. On l'en a dissuadé. Pour le moment, les États-Unis ont été relativement silencieux après cet assassinat. Il va forcément y avoir des représailles de la part de l'Iran. Elles viseront essentiellement Israël, qu'ils blâment pour cet acte. Que font les États-Unis? Ça va pas être très facile. Ça complique d'ores et déjà, d'entrée de jeu, si vous voulez, la négociation que semble vouloir Joe Biden pour une sorte d'accord nucléaire. Quelle partie?
Et vous, Denis Bive, sur le nucléaire iranien, par exemple, pensez-vous que Joe Biden doit réintégrer l'accord de 2015 que Trump a quitté ou bien?
Je ne pense pas. Je crois que cet accord, ça n'a rien donné. Ça crée vraiment beaucoup de dangers pour le monde entier. Et à mon avis, Biden, disons sa route vers le monde entier, va être beaucoup plus facile, puisqu'on a tellement marre de Trump.
Mais les alliés européens des États-Unis soutiennent toujours cet accord.
Oui, mais quand on regarde profondément dans cet accord, ça ne nous donne rien. Et donc, revenons à nos moutons, je pense que pour Biden, ça ne va pas être trop difficile, vraiment, de réintégrer les États-Unis dans le monde entier. On le voit comme quelqu'un qui va sauver vraiment les relations entre l'Amérique et effectivement le monde entier.
Oui, René, comment est-ce qu'il peut faire ça s'il ne trouve pas un moyen de faire revenir l'Iran à la table des négociations comme le souhaitent les Européens?
Non, écoutez, à mon avis, il n'y aura pas de doute que la négociation et la communication va s'établir de manière effective et efficace entre les États-Unis et l'Iran dès que Joe Biden sera aux affaires. Ça ne fait pas long d'un doute à mon avis. Mais je partage le point de vue de Claude que ça ne va pas être facile puisque même cet assassinat dont vous parliez tout à l'heure, en fait, beaucoup d'analystes considèrent qu'il est arrivé justement à ce moment-là pour compliquer cette négociation entre les États-Unis et l'Iran, les États-Unis avec l'administration Biden. Mais malgré tout, je pense que d'une manière ou d'une autre, même la réaction iranienne sera plus ou moins, je ne sais pas si elle sera modérée, mais en tout cas, elle sera calibrer, voilà c'est le mot que j'ai cherché, à calibrer en fonction justement de ce qu'ils voudront obtenir de l'administration Biden pour ne pas compromettre complètement la possibilité d'une négociation.
Je reste avec vous, René, pour parler un peu de l'Afrique, hein, dans la politique étrangère de la future administration Biden, surtout par rapport à la présence chinoise et également la lutte contre le terrorisme et tout ça. Comment est-ce que vous voyez...
C'est un point important d'abord parce que la Chine, déjà, le conflit ouvert, la guerre commerciale avec la Chine, elle va prendre d'autres formes. Hein. Je crois qu'il y aura quelques acquis quand même par rapport à la politique Trump vis-à-vis de la Chine, cette sorte de challenge dans lequel il s'est engagé avec elle. Mais je pense que globalement, l'approche vis-à-vis de la Chine par rapport à l'administration Biden sera un peu différente. Maintenant, sur l'Afrique, je crois que bon, on va revenir à des taux de coopération plus importants. Sous Trump, je crois déjà signaler, on était à peu près à 59 milliards d'échanges commerciaux en 2019, donc juste l'année dernière, alors que 8 ans plus tôt avec Obama, on était dans les 107-108 milliards par an. Donc je pense que ça va redoubler très certainement en termes d'échanges commerciaux. Et sur la question de sécurité, la question de politique sécuritaire, je crois qu'il va y avoir une certaine continuité, parce que quoi qu'on dise, il y avait une continuité sur ce terrain-là avec Donald Trump.
Et vous, Claude, vous pensez que les États-Unis doivent être plus présents militairement en Afrique quand on voit un peu ce qui se passe dans le Sahel et même en Somalie? Mais en même temps, on a vu que Trump veut se désengager en Afghanistan, surtout que le retrait des troupes américaines de l'étranger semble quand même assez populaire auprès de certains Américains.
Oui, c'est certain. Tout dépend si vous êtes isolationniste ou interventionniste. Et on imagine qu'avec l'administration Biden, on retournera à une politique un peu plus interventionniste. En ce qui concerne l'Afrique, ça me semble indispensable parce que l'Afrique devient pour les États-Unis un nouvel Afghanistan, si vous voulez, un nouveau refuge pour l'ancien État islamique qui est en train de se reformer au Sahel et en Somalie et ailleurs. Donc il y a un danger réel et là, il sera difficile aux États-Unis de se retirer. En ce qui concerne l'Afghanistan, Trump propose de couper de moitié les effectifs, qui sont de 4 000, je crois. Ça tombait à 2000. Et personnellement, je pense que c'est dangereux de se retirer trop tôt à un moment où il y a des négociations entre les talibans et le gouvernement afghanistan. Si les talibans savent que les Américains vont s'en aller, ils vont faire aucun effort pour négocier.
Et vous, Denis Bivot,
pourquoi on a tellement adoré Trump, hein? Les 70 millions qui ont voté pour lui, puisqu'il a dit on va quitter Afghanistan, et il a essayé de le faire, il était en train de le faire. Ça fait quoi, 12 ans de guerre en Afghanistan, et qu'est-ce que ça nous donne? Ça rapporte rien, rien n'a changé. Les talibans sont aussi forts qu'avant. Il y a beaucoup d'Américains qui pensent alors ça suffit, au revoir, Afghanistan. Bye bye.
René, la nécessité d'équilibrer les demandes d'une certaine opinion publique et aussi la nécessité de protéger, ou en tout cas de s'engager aux côtés des alliés en Afghanistan.
Oui, écoutez, c'était un peu sur cet équilibre-là que s'est terminée l'administration Obama. Au début de votre émission, Abdelrahman, on parlait du troisième mandat d'Obama et quelque part, sur cette question afghane, on sera dans une sorte de troisième mandat d'Obama. Mais en sachant ceci, c'est que de manière déjà dans l'administration Obama, Biden était déjà un peu en retrait, il n'était pas tout à fait d'accord avec le maintien d'un nombre important de troupes. Donc je pense qu'on va rester sous ce qu'on appelle les special ops, les troupes spéciales qui vont intervenir aux côtés de l'administration centrale à Kaboul. Mais je ne pense pas que l'on revienne à un redéploiement en Afghanistan sous l'administration Biden. Ça, je ne pense pas du tout.
D'accord, merci beaucoup. En tout cas, nous arrivons au terme de ce Washington Forum. Merci à mes invités, à vous qui nous avez suivis. C'est une émission que vous pouvez retrouver sur notre site internet et sur la page Facebook de VOA Afrique, et également sur nos télépartenaires à travers le continent. Merci l'équipe technique, à très bientôt. Au revoir.